Exposition Henri Moore. Tonnerre de Brest, comme dirait le fameux capitaine Haddock. Jusqu'au 4 novembre, les sculptures monumentales du Britannique Henri Moore, un artiste hors norme et assez méconnu en France, débarquent sur le sol breton du Finistère. À une vingtaine de kilomètres avant Brest, plus exactement dans le village de Landerneau, où se trouve le siège social d'une grande enseigne de magasins, est organisée une grande rétrospective dédiée au sculpteur anglais Henri Moore. Aucune exposition significative n'avait été proposée en France depuis celle de Paris en 2006. Comme dit un autre proverbe local, cela fera du bruit dans Landerneau. Alors, le groupe Leclerc a créé en 2011 un fonds pour la culture ayant pour vocation de délocaliser en Bretagne de grandes expositions, une région souvent assez négligée au niveau artistique. L'exposition est facilitée par un parking proche mis à disposition pour les visiteurs. Les ateliers des Capucins est un ancien couvent du XIIe siècle qui deviendra usine et enfin hypermarché. Il fut rénové avec grand soin pour accueillir des expositions. La cour intérieure avec sa fontaine et sa chapelle édifiée avec des pierres de l'ogonat aux teintes chaudes devient un écrin privilégié mettant en valeur les originalités surprenantes de l'art moderne et notamment une centaine de sculptures et 80 dessins d'Henri Moore. Né en 1898 dans le Yorkshire et décédé en 1986 en Angleterre, Henri Moore est issu d'une famille nombreuse et d'un père ingénieur des mines. Pendant ses études primaires, il est encouragé par sa professeure d'art qui lui fait découvrir les civilisations minoennes, babyloniennes et andines. Henri Moore commence alors à sculpter avec un simple couteau de poche. À 19 ans, il participe à la Première Guerre mondiale où il est gazé pendant la bataille de la Somme. Rapatrié, il reprend ses études à l'École des Beaux-Arts de Leeds, puis au Royal College d'Art de Londres, où il affine sa conception personnelle de la sculpture. Là, le fait de modeler des figures et de les dessiner de différents points de vue m'a enseigné davantage que n'aurait pu le faire la simple contemplation d'un tableau, expliquait-il. Inspiré par Michel-Ange, Moore sculpte la maternité à l'âge de 26 ans. Un thème avec celui de la famille et du couple qui reviendra assez régulièrement au cours de sa vie, notamment quand celui-ci devient père. Moore voyage en France où il est présenté au sculpteur Mayol. Il s'intéresse aussi à la peinture impressionniste. Cézanne fut probablement la figure clé de mon existence, expliquait-il. Puis, il va parfaire sa maîtrise en Italie où il exécute des croquis inspirés des maîtres sculpteurs romains. Mais sa principale source d'inspiration est la découverte des œuvres précolombiennes du British Museum. En 1928, il avait accepté une commande pour réaliser un bas-relief pour la Compagnie des Transports de Londres. La même année, pour sa première exposition personnelle à Londres, il présente une cinquantaine de sculptures et autant de dessins. L'accueil de la critique est plutôt réservé envers ce jeune homme de 30 ans. Marié en 1929 avec une étudiante en peinture, il prendra souvent son épouse pour modèle. Puis Moore deviendra le directeur du département de sculpture de l'école d'art de Chelsea. Après des contrats fréquents avec des contacts assez fréquents avec ses contemporains Picasso, Braque, Harpe et Giacometti, ses œuvres deviendront de plus en plus abstraites. L'influence du surréalisme commence à transparaître dans sa sculpture. La Seconde Guerre mondiale va interrompre son exploration artistique, mais pendant cette période troublée, il va traduire par des centaines de dessins le sort des Britanniques calfeutrés comme des rats dans les abris de fortune du métro londonien pendant les bombardements allemands du Blitz. Le dessin est l'expression et l'explication, déploiement de la forme d'un objet solide sur une surface plane. C'est la tentative de comprendre pleinement la tridimensionnalité de la figure humaine. Moore développe un langage artistique qui lui est propre, à mi-chemin entre la figuration et l'abstraction, mais refuse de s'insérer dans le carcan d'un style particulier. La consécration de son œuvre intervient après la guerre, où des commandes de plus en plus importantes sont passées par diverses institutions publiques, dont une pour l'UNESCO à Paris. Une rétrospective de son œuvre est aussi organisée par le Musée d'art moderne de New York, et en 1948, Moore remporte le prix international de la sculpture à la Biennale de Venise. La sculpture est un art de plein air. La lumière du jour, celle du soleil, lui est nécessaire, expliquait-il. Pour répondre à cette vision, ses sculptures vont prendre des proportions monumentales. L'artiste travaille dans un premier temps des maquettes en plâtre, puis, avec l'aide d'assistants, il travaille sur le modèle final à grande échelle. En 1968, une première grande rétrospective a lieu à la Tate Gallery de Londres, puis en 1972 à Florence, puis à Toronto. Le sculpteur recevra de nombreuses récompenses. En 1977, il crée la Henry Moore Foundation à Perry Green et il donne une importante partie de ses œuvres à la Tate Gallery. L'artiste va mourir en 1986, dans sa propre maison, dont il ne trouvera jamais le besoin de déménager, malgré sa grande aisance financière. Son corps est enterré dans la cathédrale Saint-Paul de Londres. Les œuvres exposées à Landerneau sont mises en valeur dans une scénographie fluide et espacée, permettant d'appréhender et surtout d'apprécier les formes sous de multiples points de vue dans les salles. Les bronzes d'Henry Moore se distinguent aussi par la qualité exceptionnelle de leur patine. Certaines de teintes moirées vertes les feraient presque passer pour du marbre ou de l'aventurine, d'autres à la patine brunie pour du bois. La rétrospective montre notamment des dessins noirs et blancs du site de Stonehenge, les mégalithes de pierre semblant être de lointaines cousines de ses propres arches en bronze. En mettant en scène sa famille, un thème peu mis en valeur en sculpture par ses propres contemporains, Henry Moore offre en fait une vision assez humaniste de la sculpture, qui est d'autant plus renforcée par la douceur des courbes et les attitudes des personnages. Certaines œuvres organiques à l'allure d'ossements humains, et même intitulées certaines Bonehead, découlent directement de cette approche. Enfin, Brest accueille sur l'esplanade des Capucins une sculpture monumentale de 4 mètres de haut, en bronze, intitulée Two-Piece Reckling Figure. À mi-chemin entre figuration et abstraction, la série des Reckling Figures est emblématique du style de Moore. La figure humaine allongée sur le flanc présente une silhouette minimaliste et asymétrique, entrecoupée de vides, laissant entrevoir le bleu du ciel et planer l'imagination. En prenant de la hauteur grâce au nouveau téléphérique qui traverse le bras de mer du Penfeld au-dessus de l'arsenal maritime de Brest, la sculpture prend tout son relief et s'intègre parfaitement sur ce site historique des Capucins en pleine rénovation. Une sculpture doit être comme la nature vivante, non comme une sorte de nature statique. Et c'est cela que doit, à mon avis, être la sculpture pour conserver toujours son intérêt. Henry Moore.